BPM, élection départementale 2021.
Bienvenue sur BPM, si vous venez de nous rejoindre, les élections départementales auront lieu le 20 et 27 juin prochain. Cette occasion, BPM vous propose jusqu'à demain des émissions spéciales. Les candidats pour les cantons de Mantes-la-Jolie viennent répondre à nos questions aujourd'hui. Nous continuons à nous intéresser à ce canton et nous accueillons Khadija Bounim et Alain Lecam, candidats de la liste L'Avenir du Mantois nous appartient, soutenu par La République En Marche. Khadija Bounim, bonjour.
Bonjour.
Alain Lecam, bonjour.
Bonjour.
Alors, Khadija Bounim, vous êtes ingénieure actuellement directrice de projet dans un grand groupe. Vous avez été adjointe au maire de Mantes-la-Jolie et conseillère communautaire de 2014 à 2017. Alain Lecam, vous êtes retraité, ancien cadre dans les assurances, fondateur de l'association Mantes Event. Vous êtes actuellement conseiller municipal de Mantes-la-Ville et vous avez été maire adjoint de Mantes-la-Ville à la culture de 1995 à 2008. Alors tout d'abord, pourquoi avez-vous décidé de vous présenter à cette élection cantonale ?
Si nous sommes candidats, c'est bien évidemment parce que nous ne sommes pas d'accord avec la politique départementale. Il y a un certain nombre de sujets qui posent énormément de questions. Je pense que c'est important de le redire parce que beaucoup de personnes ne le savent pas. Le département des Yvelines, c'est le troisième département le plus riche de France. Notre canton, qui se compose de Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Magnanville, Rosny et Buchelay, compte parmi ces villes, donc Mantes-la-Jolie, la ville au revenu le plus bas des Yvelines. Donc on est à la fois le troisième département le plus riche de France et sur notre canton, on a la ville la plus pauvre en fait, des Yvelines. Donc c'est extrêmement important de le savoir. Donc le candidat sortant, Pierre Bédier, a été élu pour la première fois président du département en 2005. 2005, ça veut dire 16 ans, c'est presque une génération. Normalement, en 16 ans, on a largement le temps de changer les choses. Rien n'a changé. Et on a beaucoup de problématiques sociales. On a beaucoup de problématiques liées au logement. C'est vraiment la question prioritaire quand on va à la rencontre des personnes sur le terrain. Et si rien n'a été fait sur les 16 dernières années, nous ne voyons pas pourquoi cela changerait sur les 6 prochaines années.
Alain Lecam.
Oui, alors on se rend compte que le département a en fait énormément de compétences. Tous les électeurs ne le savent pas, mais le département s'intéresse vraiment à tous les actes de la vie, de la naissance jusqu'à la vieillesse. Et en fin de compte, quand on regarde un petit peu ce qui est fait actuellement au niveau du département sur ses compétences, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites correctement. Et nous, notre volonté, c'est de faire plus et mieux vraiment dans les domaines de compétences du département.
Eh bien, on va en parler justement de ces compétences. Commençons par l'économie et l'emploi. Vous voulez créer une fabrique de talents permettant d'accueillir des créateurs d'entreprises à côté de la gare. Ineos, il n'y a plus de place à Ineos ? Alors, Ineos, c'est une pépinière d'entreprise.
Alors effectivement, Ineos, c'est une pépinière d'entreprise. C'est une pépinière donc, qui a été où on a Paul Martinez qui en a été à l'initiative et ça fonctionne très très bien. Au contraire, et c'est justement parce que cela fonctionne que nous pensons qu'il faut étendre ce type d'initiative au territoire. Pourquoi autour de la gare ? Pour plusieurs raisons. Donc effectivement, Eole arrive. Alors, par contre, on tient quand même à rétablir une chose. Hein, c'est que ce qui est annoncé, ce n'est pas la bonne année. Hein. Très clairement, Eole arrivera en 2025, hein, pas avant. Donc quand on nous dit que ça arrivera avant, c'est faux.
2024, c'est ce qui se dit.
Non. Ça sera 2025 au plus tôt. Donc, je pense que c'est important de le rétablir et de dire la vérité aux habitants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, très bien, Eole arrive. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour préparer l'arrivée d'Eole ?
Le quartier Mantes Université.
Alors, le quartier Mantes Université, on pourra en reparler un petit peu plus tard dans la discussion, mais c'est un échec majeur. Le quartier Mantes Université, c'est un échec majeur du président du département, qui est aussi président de l'EPAMSA. Mais on reviendra dessus. Donc, sur la partie Eole, l'enjeu d'Eole, c'est que justement, ça soit un catalyseur en termes d'activité économique, en termes de création d'emplois. Et si on ne développe pas des endroits pour accueillir les entreprises, pour accueillir des créateurs d'entreprises, ça ne se développera pas. Et on sait pertinemment que sur notre territoire, nous avons beaucoup de talents, nous avons beaucoup de personnes qui ont envie de créer leur entreprise, qui sont extrêmement créatives, ces personnes. Et si on ne les aide pas, si on ne les accompagne pas, si on ne met pas en place des couveuses qui permettent de les accueillir, l'activité économique ne se développera pas. Vous parliez du quartier Mantes Université. C'est l'exemple même de la politique départementale du président du département, qui est aussi notre qui est le conseiller départemental sortant. En définitive, sa seule politique, c'est la bétonisation massive. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un quartier Mantes-Université qui est juste, finalement, des logements. Alors qu'à la base, il devait y avoir des universités, il devait y avoir de l'activité économique. Et en définitive, aujourd'hui, ça n'est que du logement. Donc on a la moitié, c'est important de le savoir, on a la moitié des logements du Val-Fouré sur un quart du territoire du Val-Fouré. Donc je ne sais pas si la population de Mantes-la-Ville et si la population du canton se rend compte de la situation catastrophique que le président du département est en train de nous créer pour l'avenir.
Alain Lecam, justement, vous êtes de Mantes-la-Ville, vous ? Votre Absolument. Avis sur le quartier Mantes-Université ?
Mantes-Université, c'est effectivement, on pensait que Mantes-Université pouvait s'écrire avec un S. En réalité, Mantes-Université, à part l'ISTI, le pôle mécatronique, on n'aura pratiquement pas d'université sur Mantes-Université. Et ce qui n'était pas du tout l'origine de ce quartier, qui est quand même le cœur de l'agglomération. Et tout cela découle énormément d'autres choses. C'était que, effectivement, un quartier universitaire, c'est une activité en termes de commerce, de restauration, d'équipements sportifs, culturels. Et donc, tout ça va disparaître parce qu'il n'y aura pas d'université, il n'y aura que des logements. Donc, c'est effectivement une vraie catastrophe pour l'avenir, quoi.
Et alors, justement, puisqu'on parle de Mantes Université, la nouvelle école fait couler un petit peu d'encre ?
Alors, la nouvelle école, bien effectivement, il est évident qu'il faut une nouvelle école dans ce quartier. Le choix de la municipalité précédente qui voulait l'implanter au Parc de la Vallée était un mauvais choix. Mais on sait que ce choix était aussi guidé par le fait que, a priori, les PAMSA n'avaient pas de terrain du côté de Mantes Université. Les PAMSA ont retrouvé un terrain, c'est formidable. Mais à côté de ça, effectivement, les personnes qui ont acheté un appartement dans la résidence Grand Parc se voient avec une résidence école. C'est pas tout à fait la même chose. Je pense que quand on achète un appartement et qu'on a envie d'avoir un parc pour les enfants, des aires de jeu, alors qu'il n'y a absolument rien, et qu'on va avoir une école ou des immeubles, eh ben on n'est pas content et c'est pas très très honnête pour les personnes qui ont choisi d'investir et d'habiter Mantes-la-Ville. Dans un quartier qui normalement est un quartier avec un poumon vert, une vitrine de ce quartier, quoi. Donc nouvelle école, oui, mais pas à l'emplacement supposé actuel devant la piscine et à la place du grand parc qui était prévu aux habitants qui ont fait l'acquisition et qui ont fait confiance à Mantes-la-Ville dans ce domaine, quoi.
Eh ben on va rester justement à Mantes-la-Ville. Vous voulez également couvrir les zones non couvertes de la fibre optique. La fibre, on en parle depuis quelques années ici, dans le Mantois et dans les Yvelines. Vous voulez, par exemple, mettre la fibre dans le domaine de la vallée. Dans le domaine de la vallée, il n'y a pas la fibre.
Alors, en allant au contact des habitants, on s'est rendu compte, effectivement, qu'il y a clairement des trous dans la raquette. Donc, effectivement, depuis un certain nombre d'années, le département des Yvelines a annoncé une politique active, justement, en matière de fibres. Mais on se rend compte, effectivement, que beaucoup de zones restent à équiper en ce sens. Et très clairement, aujourd'hui, c'est un vrai marqueur de développement ou non d'un territoire. Et pour nous, il est impératif que nous passions en revue tout le territoire et que nous voyons les zones qui ne sont pas couvertes pour qu'elles le soient. Et de toutes les façons, on parle là présentement de tout ce qui est développement économique. Si les zones, justement, ne sont pas équipées, les entreprises ne viendront pas s'installer, les habitants ne seront pas bien couverts. Donc, pour toute la partie accès à l'emploi, accès aux loisirs, ces personnes seront désavantagées. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de zones qui soient désavantagées comparées aux autres.
Alors, le temps file, on va passer au volet sécurité, qui n'est pas une compétence à proprement parler du département. Quelles sont vos propositions en la matière ?
Alors effectivement, ce n'est pas une compétence du département et le département ne pourra pas résoudre tous les problèmes de sécurité qui pourtant sont nombreux sur le territoire. En revanche, le département a la compétence des collèges et sur les collèges, au niveau de la sécurité, il y a énormément de choses à faire. On a vu que malheureusement dans les Yvelines, il y a eu des catastrophes. Et il faut absolument sécuriser les abords des collèges. Ça passe par la présence de médiateurs plus nombreux. Ça passe également par la vidéoprotection. Et c'est vraiment une nécessité d'avoir une protection au niveau de l'abord des collèges avant même de rentrer dans les collèges. Et puis également, il y a aussi des choses à faire contre le harcèlement scolaire. Il y a de la sensibilisation à effectuer au niveau du danger des réseaux sociaux. Il y a toute un certain nombre d'éléments à prendre en compte pour effectivement sécuriser l'aspect au niveau des collèges. Il y a également la sécurisation pour les entreprises au niveau de leurs abords. Il faut lutter contre les intrusions, les squats, les installations sauvages. On voit malheureusement que c'est pas toujours le cas dans le Mantois et c'est important d'aider les entreprises à financer leur sécurité. Également aussi la lutte contre les violences faites aux femmes. Il faut avoir des travailleurs sociaux qui accompagnent les femmes dans un lieu de repos, voilà, pour que effectivement ce problème de sécurisation des femmes soit pris en compte. Il n'y a pas suffisamment actuellement au niveau du département et dans le Mantois.
Alors, on va passer au volet solidarité. Vous indiquiez même il y a deux minutes que le département des Yvelines est le troisième département le plus riche de France et que Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville connaissent un taux de pauvreté de 25%. C'est sorti de votre programme, hein, les chiffres. Et alors que dans les Yvelines, c'est de 9,7%. Que comptez-vous faire pour remédier à ce problème? Mais surtout, le département peut-il vraiment régler les problèmes de pauvreté? Est-ce que c'est pas à plusieurs strates qu'on peut le faire? Département, région, État, le département peut-il tout faire?
Alors, bien évidemment que le département ne peut pas tout faire. Par contre, il peut fortement y contribuer. Le département, donc au niveau en France, hein, donc le découpage territorial est ainsi fait que l'échelon qui est en charge du social, c'est le département. C'est extrêmement important. Nous avons la chance de vivre sur donc le troisième département le plus riche de France, un budget de 1,6 milliard, c'est important de le savoir, hein. Sur ces 1,6 milliard, quand on regarde le montant des subventions de plus de 23 000 euros qui sont alloués, on est sur du 11 300 000. Et sur ces 11 300 000, on va vous donner un exemple concret, seuls 110 000 euros sont alloués à l'insertion. Donc, il y a quand même un vrai sujet sur les choix faits par le département des Yvelines pour accompagner tous ces publics qui relèvent de sa responsabilité. On le rappelle, cet accompagnement-là relève de ses compétences réglementaires. Donc vous parliez du taux de 25%. 25%, c'est à Mantes-la-Ville. À Mantes-la-Jolie, on est à 31%. C'est-à-dire qu'une personne sur trois qu'on croise à Mantes-la-Jolie est en dessous du seuil de pauvreté. C'est énorme. Donc, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça fait plus de 16 ans qu'il est président du département, donc si les choses avaient dû changer, elles auraient changé. Alors concrètement...
Oui, parce que je vais vous demander, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens soient moins pauvres?
Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plusieurs choses. Déjà, on se pose une question, donc l'État a lancé le plan pauvreté, le département des Yvelines ne l'a pas signé. Donc nous, une fois élus, la première des choses que nous ferons, c'est signer le plan pauvreté. Parce qu'on ne peut pas taper sur l'État en disant que l'État ne fait rien, et quand l'État propose des plans, qu'ils ne soient pas signés. Donc nous signerons ce plan pauvreté. Ensuite, il y a un certain nombre d'institutions, pardon. Il y a tout un maillage territorial qui a complètement été détricoté par le département. La politique qui a été mise en place par le président actuel, en définitive, c'est de tuer toutes les petites associations, de détricoter complètement tout le tissu associatif de proximité au bénéfice de très grosses structures. On parle d'Activity, dans tout ce qui est l'insertion, on parle d'INVI, dans toute la partie aide à domicile, on parle sur la partie collège.
On va en reparler juste après. Voilà.
Oui, donc de la CEMOP, c'est midi. Donc la politique qui a été mise en place, c'est de mettre en place des très grosses machines et de tuer tout le tissu associatif qui justement faisait ce travail de proximité, qui permettait d'identifier les publics en difficulté et qui permettait d'apporter une réponse. Donc une meilleure allocation des budgets du département. Le fait de rétablir le tissu associatif, le tissu de proximité, le fait de mettre en place une action sociale qui sera véritablement autonomisante. Nous ne pensons pas que ce soit bon finalement être uniquement dans de l'assistanat. Nous pensons qu'il faut accompagner les gens Donc, leur apporter toute l'aide dont ils ont besoin.
Mais est-ce que, par exemple, la mission locale peut les aider? Est-ce que le Pôle emploi peut les aider? Parce qu'il existe des choses quand même aujourd'hui.
Bien sûr, et c'est important que la mission locale et le Pôle emploi continuent. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, nous ferons le nécessaire pour, au contraire, accompagner davantage ces institutions, excusez-moi. Mais il en reste pas moins que vous avez une partie du public qui échappe complètement, qui sort complètement des radars de la mission locale et de Pôle emploi. Et donc, l'objectif, c'est que les associations de proximité que nous remettrons en place, que nous refinancerons, accompagnent les publics pour les amener vers la mission locale et les amener vers le Pôle emploi. Si ça n'est pas fait, ça ne peut pas fonctionner. Vous avez beaucoup de personnes qui, malheureusement, sont en très grande détresse, qui n'iront jamais au territoire d'action sociale pour demander de l'aide. Non, c'est clair. Et donc, si on n'a pas des petites structures de proximité qui les accompagnent, qui les identifient, ça ne peut pas changer. On a eu la chance d'avoir été reçus par l'association ACF, qui fait effectivement un travail formidable comme d'autres. On a Soufa aussi à Mantes-la-Ville, on a les Restos du Cœur, enfin, on a pas mal d'associations qui font un formidable travail. Et quand on met en relation le nombre de familles accueillies et les subventions allouées, il y a de quoi se poser des questions. Là, j'ai en tête les chiffres, par exemple, d'ACF. Ils soutiennent 500 familles sur l'année et ils n'ont que 20 000 euros de subventions dans l'année par le département.
Donc, vous allez, si vous êtes élu, augmenter les subventions d'associations de proximité.
Exactement.
Allez, on va passer au collège maintenant. Quels sont les axes à améliorer, selon vous, pour les collèges du Mantois? Et que pensez-vous de l'arrivée du nouveau collège à Mantes-la-Jolie?
Alors, le collège innovant, sur le papier, c'est vrai, il porte son nom, c'est une innovation. L'idée, c'est effectivement que les élèves soient acteurs de leur scolarité. C'est inspiré fortement de ce qui se passe dans les grandes écoles où les élèves, finalement, choisissent des modules et choisissent les cours qui les intéressent. Mais quand on connaît le territoire, quand on connaît les difficultés, quand on connaît le taux d'échec scolaire, on est en droit de se poser des questions. Et puis, j'ai aussi été professeur au collège, donc je connais bien ces problématiques. Et je peux que m'interroger sur la réalité, en fait, de cette proposition. Et je crains, malheureusement, que ce soit davantage un effet de communication qu'un véritable programme. Il faut voir que ce collège, c'est la fusion de deux collèges qui, seront
Chénier
fermés.
Chénier et Cézanne, ouais.
Exactement, Chénier et Cézanne. Donc, ça veut dire qu'on a construit un bloc énorme qui va accueillir énormément d'élèves en plein cœur du quartier. On densifie encore plus. Donc, face à Laurencin, c'est beaucoup plus densifié. Où est la respiration du quartier? Où est la respiration des élèves? On peut se poser des questions sur les choix qui ont été faits et sur l'implantation de ce collège à ce niveau-là. Ensuite, sur l'accompagnement pédagogique, laissons-lui sa chance. Voyons ce que ça donne. Mais je me pose quand même des questions sur la réalité du projet et sur le fait que ce soit réellement adapté aux besoins des élèves. Parce qu'en définitive, quand vous avez des élèves qui sont en grande difficulté, qui ont besoin d'apprendre à travailler dans un cadre, est-ce que la meilleure manière de les aider, c'est de dire que c'est ouvert, qu'ils sont, que c'est à la carte? Je suis pas sûre. On peut se poser des questions.
Allez, dernier sujet qui vous tient spécialement à cœur, les bibliothèques départementales. Il nous reste 2 minutes. Vous militez pour le retour de la bibliothèque départementale. À quel point son rôle est-il important pour la population, Alain Lecam?
Alors, il faut savoir déjà effectivement que la bibliothèque départementale, c'est un établissement qui était réservé aux professionnels, composé par des professionnels. Et le rôle de la bibliothèque départementale, c'est de permettre aux bibliothèques des petites communes d'avoir des prêts de livres, des prêts d'expositions. Et donc, cette fermeture, c'est préjudiciable effectivement pour les administrés, pour la lecture publique, parce qu'effectivement, il y a moins d'offres au niveau des bibliothèques et on sait que les budgets ne sont pas extensifs et importants par rapport aux municipalités. Et donc, in fine, ça pénalise les habitants. Donc, on milite effectivement pour la réouvrir.
Et il me semble que les ouvrages de la bibliothèque ont été donnés justement aux communes, non ? Quand elle a été fermée.
Alors, il y a des ouvrages qui ont été donnés, certes, mais donc ça reste sur du one shot. Après, effectivement, pour l'avenir, on n'anticipe pas, quoi. Il y a également au niveau de la culture des choses à faire sur le. On milite pour l'ouverture d'un musée de la musique. C'est un musée qui devrait exister depuis au moins une vingtaine d'années. Quand on sait qu'on a sur le territoire de Mantes-la-Ville, Selmer, Buffet Crampon, qu'on a sur Magnanville de Gourdon, c'est inimaginable de ne pas valoriser ce savoir-faire qui est reconnu comme étant unique au monde.
Et ben, ça sera le mot de la fin. Khadija Mounib, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous. On voudrait juste ajouter une chose, le logement. Ça sera notre priorité si nous sommes élus.
Merci Alain Lecam d'avoir Merci. Accepté notre invitation.
Merci beaucoup.
Cette émission sera rediffusée à 12h30 et 18h30. Demain, nous terminerons le canton de Mantes-la-Jolie. Et nous recevrons à 8h Cyril Naute et Mathilde Androuet, candidat du Rassemblement National. Et à 8h30, ça sera le tour de Pierre Bédier et Nathalie Pereira, candidate d'Ensemble pour les Yvelines. Excellente journée à l'écoute de BPM.